Et là, si je tape quelqu'un, vous m'entendez? Allez, ah oula, c'était une gifle.
Qu'est-ce que vous dites?
C'était une gifle, on aurait dit une gifle.
Vous écoutez
Serial Causeur.
Serial Causeur.
Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, votre podcast série. J'ai vérifié, il n'y en a pas d'autre. C'est notre dernière émission de cette saison. Pas d'inquiétude, Stéphane.
Pardon.
Je suis entouré toujours des mêmes, hélas, Stéphane.
Bah oui, mais bonjour.
Hélas.
Maxime.
Ouais, enfin, toi aussi, t'es toujours là.
Bim.
Et la prétentieuse à qui?
Oh oui, c'est Mélanie.
Évidemment, évidemment.
Non, ah, il faut en parler quand même. J'ai jeté un œil sur les commentaires sur iTunes. Ouais. D'ailleurs, si vous aimez notre podcast, commentez, mettez de bonnes notes, parce que notre note est toute basse. Et j'ai vu un commentaire qui disait que, en fait, on était un peu prétentieux par rapport aux séries qui avaient leur public et qui marchaient bien, enfin, qui avaient la hype,
notoriété, on va
la
dire,
hype voilà, du grand oui, public.
Voilà.
Et donc, ça serait bien d'être moins prétentieux, entre parenthèses, surtout à qui. Donc, ça nous a fait tous, ça nous a fait tous rire.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que
alors que je me défends, je suis la première à défendre genre les séries grand public en mode non mais voilà, vous les excluez avant même de leur avoir donné une chance, etc. Donc voilà, super, voilà ce qu'on récolte.
Non mais la date, en fait, ça correspondait au tournoi des duos, donc je pense qu'on on mettait déjà des couples, enfin des duos gagnants en avance à cause
pas mal de monde, ouais, en effet.
Alors peut-être qu'on dit que le prétentieux ici, c'est moi.
C'est vrai.
Bah, franchement, entre Stéphane et toi, Maxime, je ne sais pas lequel.
Non, mais de suite, mais
à qui es-tu? Bon, alors, ça y est, nous y voilà, c'est l'heure du bilan. Alors d'abord, celui du podcast et ensuite des séries. Alors, cette année, étonnamment, on a réussi à faire 25 émissions, alors que j'ai l'impression qu'on s'est réunis juste 4 fois cette année. Enfin, je ne sais pas comment on a réussi à faire autant d'émissions. Oui, sûrement ça. Et on a eu des départs, on n'a pas eu d'arrivée. Et chaque saison, je me dis, qui va rester? Qui va partir? Est-ce que je continue? Et surtout, quand arrive notre série audio? Ça, je ne sais pas. Enfin, donc, merci d'avoir été fidèle cette saison. Merci Maxime, Stéphane et Aki d'être là encore. Alors, c'est toujours la même question quand on doit faire un bilan. Est-ce qu'on attend la fin d'année? Est-ce qu'on attend la fin de saison télé des networks? Avec cette saison particulière où pas mal de séries ont été écourtées, ont démarré plus tard, il était toujours pertinent de se poser la question, et on est l'un des rares, si ce n'est le seul, à faire un bilan collectif que je relaye via le site Small Things depuis 7-8 ans. Mais c'est de plus en plus discutable au final. Le poids des networks se fait moindre avec toujours plus de séries événements sur quelques mois. Alors on inaugure une version du bilan collectif un peu différente, et peut-être que l'année prochaine on attendra décembre pour faire un bilan. On ne sait pas. Oui, Stéphane, on ne sait pas. Peut-être qu'on parlera plus de séries network.
Oh, arrête.
Alors, donc, une nouvelle version, mais cette fois-ci avec une communauté de podcasteurs, puisque, comme vous le savez, on a eu nos petits collègues qui sont venus un peu en guest cette année. Alors, donc, on aura le bilan de Series Junkies, de Series Pod, de Monsieur Series and Friends et de 42 minutes. On leur a demandé de tirer aussi leur bilan autour de 3 catégories, le top des nouveautés, des nouvelles saisons et enfin de leur série découverte ou revue. Et on a demandé la même chose à nos causeurs, et donc voici le résultat. On commence par le top nouveauté collectif, et ensuite on viendra un peu sur le personnel. Alors pour nous...
Roulement
de
tambour.
Magnifique.
Oh, le montage.
C'est un roulement de doigts sur une table. Alors notre top 3, évidemment, est un top 4.
Évidemment.
La faute à tout le monde. On commence par numéro 3, c'était Le Jeu de la Dame qui est arrivé en octobre, s'il me semble bien, sur Netflix et qui avait tout ravagé sur tous les papiers, sur les séries. C'était Le Jeu de la Dame, Le Jeu de la Dame, Le Jeu de la Dame. Qui n'a pas vu Le Jeu de la Dame ici? Pointez du doigt Stéphane. Voilà.
Ouais.
Ça a été quand même une très bonne mini-série, quoi qu'on en dise. Saison 2 ou pas, c'est quelque chose à voir. C'était très bien interprété, c'était très bien fichu, en fait, comme série, tout simplement. Je ne sais pas si...
Comme je ne l'ai pas vu, est-ce que ce n'était pas un long film découpé en morceaux?
Non, du tout.
Non, pour le coup, vraiment pas.
Tu suis vraiment le parcours du personnage, donc j'ai oublié totalement le nom d'ailleurs.
C'était bien, c'est malin.
Je me souviens juste d'elle, c'est tout. Anya, oui, voilà.
Et la série reprend quand même des codes des grandes mini-séries, mais vraiment mini-séries, non pas long film. C'est-à-dire qu'elle fait tout le temps des ellipses. Elle construit son personnage grâce au flashback. Enfin, il y a peu de traitements vraiment filmiques. Oui, il y a une attention particulière au costume, à la caméra, à la photographie, mais comme dans toute série maintenant, à part les séries Network, maintenant toutes les séries s'y sont mises, donc c'est même plus un débat, la qualité visuelle de la série. Donc au-delà de ça, non.
Mais même narrativement, chaque épisode suffit presque. Enfin, je veux dire, ça raconte vraiment quelque chose.
C'est le but, hein.
Oui, mais c'est pas un bête, une bête histoire découpée, quoi. C'est vraiment. Alors que c'était un roman.
Le plaisir, c'est sur ma liste de rattrapage de cet été.
Eh ben, très
bien. Ouais. Enfin, Stéphane, il était temps.
Stéphane, tu peux au moins me faire plaisir sur ça, parce que ça fait plusieurs séries que je rattrape à côté de toi.
En effet, c'est toi qui me. Je me sens coupable après, à chaque fois que tu commences un truc que je te force à regarder.
Numéro 2, on en a parlé, c'est Girls Five Ever. On ne verra pas dessus, on en a parlé dans l'émission d'avant. C'était le coup de cœur qui reviendra donc pour une saison 2. Et enfin,
par
numéro.
Contre, à qui tu peux chanter, s'il te plaît, le Girls Five Ever?
Ah, mais en fait, tu vas rigoler, mais j'ai juste 4 stars en tête, là, et j'arrive plus à sortir le Girls Five Ever.
C'est tellement triste. Oh là là.
Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai juste le 4 stars. Mais du coup, c'est quoi déjà? Attendez. Non, je ne l'ai plus. Il est sorti, c'est pas série, possible. Donc.
Catastrophe.
Voilà, je vais re-regarder.
C'est bien, on vend très bien nos deux séries pour l'instant.
Oui,
et enfin, numéro 1, alors deux ex-échos, It's a Sin.
Ah oui.
Rapidement, Maxime, pourquoi c'est bien et qu'est-ce que ça raconte en deux phrases?
C'est l'histoire d'un groupe d'homosexuels, de LGBT et alliés qui sont confrontés au sida. Dans les années 80, et c'est fait par Russell T. Davis, et c'est juste génial. Enfin, Russell T. Davis, il est parti sur une lancée, c'est hallucinant. Nous faire Years and Years et après It's a Sin, j'ai trouvé ça dingue. Certes, il y a des défauts, par-ci, par-là, notamment le personnage principal, j'ai vu beaucoup de critiques dessus, où parfois je suis assez d'accord, mais à côté de ça, tu ressors d'un épisode, t'as envie de chialer et de rire. Enfin, où tu as ri et tu as chialé.
Oui, plutôt.
Et non, c'est top jusqu'à la dernière seconde.
Les dernières secondes sont quand même très, 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 très intenses.
Ouais, enfin, tout le personnage de la mère de Richie, c'est ça?
Ouais. Oui, tout à fait.
Joué par Kelly Hawes, c'est...
Oh là là.
J'en ai des frissons rien que d'entendre parler, alors c'est pour dire.
Petit aparté, Russell T. Davis, justement, critiquait la future privatisation de Channel 4. En disant qu'il y avait des grands risques que bah justement des séries de cette trempe-là, de cette veine-là ne puissent plus se faire à cause de la privatisation. Donc il mettait en garde donc c'est pas encore acté, mais bon, bientôt quoi. Voilà.
Donc on peut peut-être très bonne dire info à qui
Channel 4. Hein.
Non mais franchement, c'est une très bonne info.
Le seul article qu'elle a lu de l'année, disons.
C'est
d'accord.
C'est pas vrai, mais c'est juste que je suis toujours un peu à l'actu. Britannique.
Et enfin, partage la plus haute marge du podium, c'est Ted Lasso qui a été la petite comédie rafraîchissante de l'année dernière, de début d'année, je ne sais plus. Tout ça passe tellement vite.
Oui, c'est ça, fin août l'année dernière.
Fin août l'année dernière, voilà. Ted Lasso avec l'ami, pas du tout, Jason Sudeikis, qui n'est pas notre ami, mais...
on rêverait tous de l'avoir un ami. Hein.
Qui a survécu, enfin qui tente de survivre à sa rupture avec Olivia Wilde.
Non mais disons-le, il survit pas du tout. Franchement, on ne devrait pas spéculer sur les people.
Il est avec une actrice de Ted Lasso en plus, donc voilà.
Bref.
Et donc Ted Lasso.
C'est le rebound de chez Rebound.
Oui, on en a déjà parlé, je ne sais plus dans quelle émission.
Une émission sur le sport.
Voilà. Et donc la saison 2 arrive cet été en plus.
Oui, le 23 juillet sur Apple TV. Plus.
Il ne tient qu'à vous de rattraper Ted Lasso avant de commencer la saison 2. C'est l'histoire donc d'un coach. D'équipe de foot, tout simplement, qui a donc un Américain qui arrive en Angleterre, et donc choc des cultures, choc de tout. Et c'est bizarre d'avoir une série américaine sur le foot, et pourtant c'est.
Alors tu utilises vraiment pour le football américain et le soccer.
Oui, le soccer.
Il faut faire gaffe quand même, parce que c'est un peu que. Voilà.
Oui, c'est vrai, c'est pas du football américain.
Ça. Et non.
Mais c'est sympa, il y a des bons petits personnages secondaires, c'est frais, ça se prend pas la tête, c'est bienveillant.
Voilà. Tout à fait. Que dire dans le bon sens du terme.
Ouais, oui, clairement, c'est positif, ça fait du bien à l'âme. Ouais.
Bah, est-ce que si tu dis que c'est bienveillant, c'est dans le mauvais sens du terme.
La bienveillance aujourd'hui a une connotation un petit peu cynique parfois, et que je veux complètement écarter concernant Ted Lasso.
Mais elle est tellement pertinente à qui ce
non, mais surtout, non, mais... non mais surtout qu'on s'est pris la tête la dernière fois parce qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était cynique, non sarcastique, alors que ça ne l'est pas du tout Ted Lasso.
Qui Eva Rock, oui.
Ben, voilà.
Ça balance.
Donc top perso, alors à qui donc tu avais Girls Five Ever et Ted Lasso, mais tu rajoutais quand même Resident Alien.
C'était ça que j'avais rajouté, j'avais dit oui. Ah oui, j'avais dû hésiter, mais je voulais quand même mettre une série de pseudo de science-fiction et comédie, parce que déjà ça se voyait, enfin on en voyait trop peu, et qu'elle est vraiment excellente, tout simplement. Voilà.
Ben voilà. Et c'est fini là.
Oui, c'est fini.
Stéphane, toi, tu avais rajouté, tu avais les trois premières séries, ça, donc tu gagnes 3 points. Ouais. Mais tu as rajouté quand même une série française qui est OVNI, dont on avait parlé avec les créateurs, et la saison 2 est en tournage, et qui, a priori, toujours dispo sur OCS.
Non, c'était OCS, Canal Plus.
Pardon.
Ben oui, mais bon.
Voilà. Tom, j'avais vraiment eu Resident Alien et pas For All Mankind.
Oui.
Ok, très bien. Ah, mais c'était les nouveautés, c'est pour ça, j'ai rien dit.
Voilà. Ah, et voilà, elle baisse, elle perd des points. C'est dommage, elle était très bien partie, c'est dommage. Moi, j'avais rajouté, en fait, je n'ai tellement rien vu cette année, que j'ai rajouté moi Superman et Lois, parce que c'était quand même plus une surprise qu'autre chose. Je pensais regarder ça d'un œil un peu, on va dire, suspect, mais en fait, non, ça se tient. Il y a un peu trop de twists tirés par les cheveux, mais franchement, ça se tient. C'est toujours aussi bien fait, c'est bien interprété, c'est solide, ça tient le coup. Donc, pour moi, je valide. Stéphane est d'accord avec moi.
Ah oui, clairement, et c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant et que ça tienne aussi bien la route, même si de temps en temps, comme tu dis, c'est un peu capillotracté sur les retournements de situation.
Et enfin, Maxime, alors lui, il aime les histoires un peu qui font chialer ou qui font... Enfin, lui, la comédie, il n'aime pas. Il n'aime pas rire. Mais c'est It's a Sin, Underground Railroad et Génération.
Ouais, j'adore chialer.
Mais non, mais écoute, qu'est-ce que je te dis, c'est très bien. T'aimes les histoires fortes, surtout.
Les histoires fortes, ouais. Bah oui. Enfin, sur Génération, je l'ai mise parce que il y a eu du forcing du côté de Stéphane aussi, mais bon. De toute façon, je suis d'accord avec lui. mais non, c'est la chronique adolescente que moi j'attendais de voir un jour sur... Enfin, ouais, en ce moment, après Euphoria en plus... Donc non, c'est parfait. En plus, c'est revenu pour une deuxième partie qui est tout aussi bien, donc génial. Et The Underground Railroad, ça a été un petit peu ma claque de l'année. Peut-être pas forcément la meilleure série, enfin celle que je mettrai en numéro 1 parce qu'elle ne m'a pas forcément touché pareil que d'autres, mais elle sera très haut parce que le propos sur l'esclavagisme est dingue et j'ai été... captivé quoi.
Et on en a parlé pareil dans l'émission précédente. Je mettrai le top des autres podcasteurs après nous, nos trois tops. On passe au rewatch. Alors c'était peut-être l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des séries cette saison. Finalement, on est très peu à avoir revu des séries, mais on a réussi quand même à en tirer trois. Donc le podium, c'est Bob's Burgers, Fringe et The Good Wife. Alors Fringe, on peut l'expliquer tout simplement, parce qu'on voulait préparer une émission là-dessus, donc on a regardé Fringe, j'ai poussé Stéphane à finir Fringe dans la douleur, vous pouvez le savoir en réécoutant l'émission sur Fringe, qu'on a fait il y a très peu de temps avec Iris et Animantrix, mais voilà, c'est fait au moins Stéphane.
Oui, c'est pas de mal avec que je me le referai. Hein.
Et donc, tu as rajouté Bob's Burger, parce que... Alors, est-ce que tu connaissais ou est-ce que tu ne connaissais pas ?
Alors, je connaissais deux noms,
ouais.
Mais sachant que quand je m'y suis intéressé, il y avait quand même déjà 9 saisons. Je me suis dit, ouais, non, t'as pas de temps à perdre. Et en fait, c'est la faute de Central Park qui a fini de me convaincre, parce que c'est les mêmes créateurs. Et donc là, comme j'ai beaucoup aimé Central Park, je me suis dit, allez, t'as du temps libre, comme t'as des postes à cause du Covid en pagaille, vas-y, Et j'ai bien fait parce que je suis tombé en amour de Bob's Burger. Quoi. C'est vraiment c'est très drôle.
Quelque part en France
Je crois que c'est arrivé où ça va arriver sur Disney+. Voilà.
Tu as rajouté The Good Wife.
Oui. Alors ça, évidemment. C'est la faute de Maxime. Parce qu'il a recommencé un rewatch et en fait, j'ai pas pu résister moi non plus. Donc ouais. Voilà. Et j'avais beaucoup de temps et en fait, c'est la première fois de... Oui, c'est la première fois parce que j'avais revu des saisons, mais là, j'ai revu tout en intégralité, tout d'un bloc et à vitesse accélérée. Et en fait, c'est génial quoi. Enfin, c'est toujours aussi bien, c'est toujours... Enfin, c'est fou. La série est vraiment dingue de bout en bout. Alors, il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais c'est... Elle est presque parfaite. Voilà.
Et tu t'es rajouté donc une série française, hein, comme toujours, Un village français.
Oui.
Donc une grande saga quand même.
Ah oui.
C'est l'une des plus grandes, on va dire, séries françaises quand même. Quoi,
oui.
Dire.
Et elle ne vole pas son titre. Franchement, j'ai été estomaqué. J'avais déjà regardé les deux premières saisons sans être plus que ça. Alors, donc là, comme j'avais le temps, j'ai foncé dedans à tête baissée et je ne regrette pas le voyage.
Ted Lasso.
Ouais. Et je ne regrette pas du tout le voyage et c'était intense. Ça a été dur à certains moments et vraiment, c'était magique. Je le recommande vivement, c'est sur Salto et franchement, il faut l'avoir au moins une fois. Ouais.
À qui n'a rien proposé parce qu'elle s'est dit non.
Non, voilà. J'ai rien rewatch tout simplement. Mais il y a trop de nouveautés pour que je fasse du rewatch. C'est déjà vrai. Que je suis en retard sur les nouveautés. Donc bon.
Maxime, bon, évidemment, The Good Place en 1, The Good Place en 2. Cela, rien ne change.
Je l'ai vraiment vu deux fois dans l'année.
Mais est-ce que tu as préféré ton premier rewatch ou ton deuxième?
Le deuxième, parce que le deuxième, c'était en confinement et j'étais déprimé.
Ah. Et troisième place, Alias. Alors, est-ce que tu as terminé? T'en es où?
Oui, j'ai terminé il y a un petit moment maintenant. Et c'était top. Je ne l'avais jamais revu depuis la diffusion que je suivais. Enfin, c'était une des premières séries que je suivais vraiment au rythme US. Et c'est toujours top.
Même la saison 4 et même la saison 5.
Non, j'allais y venir. Avec le temps, tu vois que la saison 4, elle ne tient absolument pas. Ça a été pour le moins compliqué. Mais la saison 5, moi, je l'ai revue à la hausse. Je me suis amusé.
Ah ouais.
Ouais, je me suis amusé et en fait, c'est qu'il y a un petit twist en milieu de série avec Alias à partir de la saison 3 où en fait, il ne faut même plus prendre ça pour quelque chose de très bien écrit parce que les deux premières saisons sont super bien écrites, mais plus comme un bon divertissement et dans ce cas-là, tu t'amuses. Donc,
Oui. Bah, c'est une série de network, donc voilà, elle a connu aussi...
Allez, le cliché, là.
Non, mais les péripéties de production et de diffusion, quoi. Il fallait tenir la longueur, il fallait... Voilà.
Non, mais ça, c'est la faute d'ABC qui a fait n'importe quoi aussi. Hein.
En soi, les deux premières saisons peuvent former un arc en elle-même, et la série aurait pu s'arrêter là avec peut-être pas le twist un des plus grands twists de la télé, pour moi. Ouais. Mais non, la série, sur les deux premières saisons, elle était vraiment très, très bien écrite. Hein. C'est assez fort, hein.
Et c'est dispo sur Disney+. Moi, j'ai mis... Alors, Fringe, évidemment. Boston Public, que je redécouvre là avec plaisir. Parce que David Ekeley est quand même quelqu'un qui fait des très bonnes saisons 1. J'allais pas dire très bonnes séries, mais avec des très bons personnages. Et ensuite, la moitié des bons personnages s'en vont, sans raison. Et après, ils laissent un peu...
Ils s'en vont ou ils disparaissent?
Et ils disparaissent.
Ah.
Ils disparaissent sans raison, vraiment. Tu sais pas ce qu'ils deviennent. Jess Halingilsit qui s'en va, c'est quand même tout l'intérêt pour moi de Boston Public. Mais bon. Et enfin, donc là j'en suis à saison 3 sur 4 et tu vois que ça sent la fin quand même. Et X-Files que je fais découvrir à ma copine, on en est à la saison 4.
Ah, c'est bien quand même.
Et c'est bizarre parce que les bonnes choses, je les aime plus, les mauvaises choses, je les aime. C'est très bizarre en fait, j'ai peur de ne pas la trouver aussi grande que dans mes souvenirs.
Mais attends, je comprends pas. Tu fais des rewatch régulièrement d'X-Files?
Non.
Non, non, non. Mais c'est ça, en fait. Là, c'était le premier depuis une quinzaine d'années.
Ah ouais.
Et c'est le premier en version HD. Et c'est vrai que la remasterisation est très bien. Mais je sais pas, il y a des choses qui... la série est un peu vieillie au niveau du rythme, au niveau de l'écriture dans les deux premières saisons. Ensuite, tu vois que c'est quand même... très pertinent, très bien fait. Enfin, c'est très prenant, quoi. Mais tu sens qu'il y a des trucs au niveau des personnages, au niveau des réactions, des trucs que qui sont tu prends différemment. Donc c'est un peu bizarre de revoir la série comme ça, parce que tu es très critique en même temps. Vu que c'est ta série numéro 1, tu es obligé d'être critique. Et c'est bizarre. Mais bon, on avance tranquillement. Et voilà, c'est une expérience. Et là, j'aurais pu rajouter aussi Dawson. Là, je retombe dedans. Je pensais pas que j'allais retomber dedans 20 ans après. Mais c'est fou. Enfin, j'ai 18 ans à nouveau. C'est fou. Enfin, bref. On passe aux nouvelles saisons. Parce qu'évidemment, il y a eu des nouvelles saisons. Hein. Notre top 3, il y a un peu de tout. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au pied du podium, c'est This Is Us saison 5.
Ouais.
C'était une évidence, Stéphane. C'était une très bonne saison 5. Une oui. Très bonne avant-dernière saison.
Clairement, qui a su intégrer le Covid de très belle manière. Et qui a su en tirer le meilleur parti. Pas comme beaucoup de séries américaines, d'ailleurs, ont réussi à le faire. Mais bon, voilà. Non, c'était toujours aussi bien. Ils se sont resserrés. Ça leur a permis de resserrer l'écriture autour des personnages, en fait, ouais. Le Covid. Et c'était pas plus mal.
Ils ont un peu oublié au fil des épisodes, un petit peu. Mais...
Oui, mais d'ailleurs, sur c'était... la fin, c'est la fin, d'ailleurs, qu'on pourrait leur reprocher de s'être un peu dispersés. Mais bon. Il va y avoir quand même beaucoup de choses à raconter dans la dernière saison, quand même.
Ouais.
Voilà. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, personnellement.
À la deuxième place, Mental, saison 2. Maxime.
Moi, je suis totalement fan de Mental. Je trouve qu'elle n'a pas la notoriété qu'elle devrait avoir. Même ouais. On la voit un peu plus avec sa saison 2. Et c'est juste trop, trop bien sur tout le propos adolescent sur les maladies mentales, les maladies aussi parfois physiques. Enfin... Non, c'est grand. Enfin, je pense qu'il faudrait montrer ça dans tous les collèges et tous les lycées pour juste banaliser, normaliser le fait que tu as besoin d'aide quand ça va pas et que tu n'es pas tout seul en fait là-dedans.
C'est visionnable où ?
C'est sur France TV /.
Ouais.
Donc c'est dispo.
C'est gratuit, les deux premières saisons. Il faut se jeter dispo. Dessus, ouais, c'est ça.
Oui, parce que c'est français, évidemment.
Évidemment.
Et sur la première place, première marche du podium, c'est la saison 2 de For All Mankind. Tu peux en parler à qui ? Vas-y, lâche-toi.
Non, mais c'est grandiose, en fait. C'est vraiment une série. Au début, tu penses pas que ça va t'emmener. Enfin, si, tu sais que ça va t'amener aux confins de l'univers, mais en fait, c'est. Ouais, non, c'est juste magnifique et c'est toujours très pertinent, avec un fond politique toujours, et non, c'est top.
We are the Baldwins.
Non, mais oh là là.
Oui, vas-y, Max.
Ce que j'allais dire, c'est que ce qui est trop bien aussi avec For All Mankind, parce que je suis d'accord avec Aki, hein, on verse vers de la science-fiction réaliste. Je sais pas si c'est le mot exact, mais
ouais.
Avec la fin de la saison 2, ça ouvre des perspectives... En termes de
enthousiasme,
ils sont dingues.
Parce qu'il faut le dire, c'est quand même une uchronie.
Oui.
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 Enfin, une uchronie du passé. Enfin,
bah, une uchronie, quoi.
Ça change pas. Oui.
Ça change rien que ce soit du passé ou du futur. Mais en fait, c'est surtout du passé, les uchronies, parce que sinon, c'est un événement du passé qui change, qui fait que l'histoire.
Racontes le présent. Alors là, tu ne racontes pas le présent. Tu es toujours dans le passé.
Bah, il nous raconte le présent.
Donc, tu sais pas s'il arrive.
Je pense qu'en saison 6, ça nous rattrapera, genre.
Bah, c'est ça.
Même avant, normalement.
Tu penses avant ?
Saison 3, 90. Oui, non, c'est la raison. C'est ça.
Maxime,
j'ai un peu du hasard, je t'avoue, donc ravi d'avoir eu raison.
Maxime, tu avais ajouté Stage saison 2, enfin 1 et 2, parce qu'on a eu les deux.
C'est super bien écrit, c'est très très drôle. Et David Tennant et Michael Sheen, enfin, voilà, c'est juste leur duo, il est top. Il fonctionnait peut-être pas dans Good Omens, mais là.
Ah, d'ailleurs, qui vient d'être renouvelé pour une saison 2. Quelle horreur.
Et Stéphane, toi, All Rise saison 2 et For Life saison 2.
Ouais, ben c'est deux séries très politiques qui ont su s'adapter au Covid et au mouvement Black Lives Matter et qui méritent vraiment le coup d'œil. Alors, c'est dommage parce qu'elles ont été annulées toutes les deux.
Non, mais All Rise...
Est-ce que c'est pas la malédiction, Stéphane, ça ?
Malédiction 2.
Bah, à chaque fois que tu regardes quelque chose que t'aimes beaucoup...
Non, bah, je regarde tellement de choses que c'est normal qu'il y ait des trucs qui soient annulés. Mais All Rise a vraiment un parcours compliqué en coulisses. Qui ne se voit pas, presque pas à l'écran. C'est ça qui est assez dingue. Et comme, je ne sais pas si à qui elle allait le dire ou pas, mais en fait, la fin de la saison 2 de All Rise marche très bien comme fin de série. Donc, en fait, on peut les regarder on peut regarder, mais il faut vraiment voir la saison 2, vraiment. Parce que c'est vraiment très politique, c'est vraiment très intéressant et ça propose des choses assez intéressantes.
À qui, toi, tu as ajouté Shrill saison 3, on en avait déjà parlé, je crois.
Oui, je pense qu'on avait vite fait parler en disant que c'est trop dommage que la saison 3 soit la dernière et surtout qu'elle n'a pas bénéficié de la communication qu'elle méritait. Parce que c'était la meilleure saison, voilà.
Wynonna Earp, saison 4B.
Ouais, bon, je l'ai mis plus par loyauté et on va dire fanboyisme qu'autre chose. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est une page qui se tourne, je pense, pour un grand fandom. Et voilà.
Vous êtes quatre.
Non, ouais, c'est ça.
Non, mais on est tellement pas quatre, toi, arrêtez. Et,
bah, vous
les
parlez
gens
très
sont
fort,
investis.
Mais vous êtes quatre.
Bah écoute, bon. C'est ça.
Et Star Trek Discovery saison 3.
Ah oui, non, mais pour moi, genre, c'est la meuf. Enfin,
ah oui,
en fait. Non mais pareil, enfin je trouve que ça c'est vraiment renouvelé. Il y a eu des adieux déchirants, des nouveaux personnages top. Enfin ça a su, bah déjà il y a eu une ellipse temporelle. Enfin ils sont allés dans le futur en fait, leur futur. Donc imaginez en quelle année nous sommes. Et bah oui voilà, donc il y a des nouveaux enjeux, des nouvelles découvertes et encore une fois là c'est l'essence même de Star Trek pour moi. Donc de la diplomatie. Bah voilà, je suis futuriste quoi. C'est nul ce que je viens de dire, mais enfin bref, c'est
commencé,
de l'optimisme.
Ça commençait tellement bien cette émission.
C'est vrai que ça commençait bien. Ouais. C'est optimiste, j'aime beaucoup cette dernière saison.
Place au top de Series Junkies.
Hello l'équipe de Serial Causeur, ici Dr. Série, je vous appelle au nom de toute l'équipe de Série Junkie pour vous donner notre top 3 des nouveautés, notre top 3 des rewatch et notre top 3 des meilleures saisons pour l'année 2020-2021. On va commencer avec les nouveautés et aujourd'hui je crois que c'est clair. On s'est mis d'accord sur en 1 Alice in Borderland sur Netflix, qui est une série japonaise qui est absolument fantastique. Voilà, on attend la saison 2 tous avec beaucoup d'impatience. En numéro 2, on a mis Sexify, une série polonaise qui est aussi vraiment magique, qui est très rafraîchissante et qui apporte énormément, j'ai trouvé. Et ensuite, on a ajouté Ted Lasso en numéro 3. Alors, il faut savoir qu'on a un 3 ex aequo avec Ted Lasso et sur Apple TV et The Wild qui est arrivé sur Amazon Prime. Voilà. Donc, au niveau du rewatch, on vous fait un top 3. Alors, les 3 séries qui ont été revues le plus cette année par l'équipe, ça a été Once Upon a Time, ensuite How I Met Your Mother, et en numéro 3, on a 2 ex aequo avec D.O.C. et Friends. Voilà pour le top 3 des rewatch. Et maintenant, on va passer au top 3 des meilleures saisons. Alors là, ça a été clair et net. En numéro 1, on a The Boys, la saison 2 sur Amazon. Vraiment une série incroyable qui a su encore cette saison repousser les limites. Quoi. Vraiment une très très bonne série. Ensuite, en numéro 2, on a mis Cobra Kai, la saison 3. Voilà, encore une fois, une série vraiment magique qui a réussi avec cette saison 3 à apporter un vent de fraîcheur. Et puis, de toute façon, cette série, c'est vrai que c'est vraiment une petite Madeleine de Proust incroyable à déguster. Enfin, vraiment, c'est très, très bien. Ensuite, en numéro 3, je vous propose The Million Little Things, la saison 3, pour ma part, qui est vraiment une saison incroyable, qui est une saison, en fait, qui a su traiter de plein de sujets différents, qui a su traiter du Covid, donc toujours de la dépression en fond aussi, bien sûr. Donc le Covid et aussi avec le mouvement Black Lives Matter. Donc une série vraiment très complète qui a su vraiment poser des vraies questions et qui a su nous toucher, qui a su nous émouvoir comme d'habitude et fait avec beaucoup d'intelligence. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit top vous aura plu, les amis. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt au sein de l'équipe aussi. Je vous embrasse tous, à très bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances à toute l'équipe. Ciao, ciao tout le monde.
On est d'accord sur Ted Lasso, c'est bien.
Moi, j'aime beaucoup The Wilds, même si c'est pas génial comme série. En fait, c'est assez divertissant et c'est très prenant. Vivement la saison 2.
Moi, je dois dire que je suis assez admirative des rewatch parce que c'est pas des séries très courtes, aucune. Et franchement, ok, c'est du beau temps investi là-dedans.
En nouvelle saison, The Boys, Cobra Kai et Million Little Things. Alors ça, c'est un peu étonnant quand même, parce que c'est des séries... Enfin, Million Little Things, on a totalement arrêté de la regarder, enfin, surtout Stéphane. Mais moi, j'ai arrêté au début de la saison 2. Donc, je pensais que ça avait... c'était devenu presque anecdotique. Donc, a priori, la 3...
semble que ce soit la meilleure saison.
Ah, voilà. En plus, ouais, ça parle beaucoup du Covid, apparemment. Et Cobra Kai, bah, qui a fait quand même son petit trou, parce qu'on en parle quand même pas mal. Enfin, il y a pas mal de papiers là-dessus. Et The Boys, saison 2, on a un peu moins parlé de cette saison 2 quand même.
On parle plus du casting de la saison 3 avec Jensen Ackles que de la saison 2 en elle-même. Donc,
c'est vrai. Top de Monsieur Série qui est 100% comédie.
Hello, c'est Monsieur Série. Alors, je vais donner une petite justification à mes différents top 3. Commençant par le top 3 des nouveautés de la saison. Le top 1, il est évident, c'était de l'assaut, même si c'est vrai, c'était demandé que ce soit à partir de septembre jusqu'à avril, septembre 2020 jusqu'à avril 2021. Je triche un peu parce que ça a commencé mi-août, mais bon, Ted Lasso, je peux pas ne pas le citer, c'est une évidence. C'est une série qui fait du bien, qui est drôle, qui est émouvante, qui est touchante, superbement jouée, superbement réalisée. Il y a rien à acheter et vivement la saison 2 cet été. Girls 5 Eva, bah, c'est le duo classique avec, avec Tina Fey qui nous crée une espèce de série sur un vieux girls band qui essaie de se reformer un peu par hasard. C'est l'humour à la à Carlock Tina Fey, c'est drôle, c'est frais, ça va à 1000 à l'heure. Moi, c'est ce que je veux. C'est voilà, c'est sorti il y a pas très très longtemps, donc il y a peut-être un mois et demi. Et sinon, 3615 Monique en début d'année, qui là c'est sur OCS TV, où on a une histoire justement des débuts du Minitel Rose avec une bande d'étudiants un peu à la Halt and Catch Fire, qui est à la fois drôle et touchant, très très bien réalisé, très bien joué et avec des musiques au top. Dans mon top 3 rewatch, bah, y a Friends, parce qu'en fait c'est chaque année, tout comme Scrubs, c'est chaque année, et ce sera mon top 3 parce que c'est ce que je re-regarde voilà, une à deux fois par an. On a aussi eu The Office, parce que ça faisait longtemps, et l'arrivée sur Amazon Prime a grandement aidé ce rewatch. Voilà, ça c'est mon top 3 parce que je suis en train de terminer Cheers, donc, et ça fait un moment que je l'ai commencé. Mais voilà, Friends, Scrubs et The Office, donc de la comédie, hein, ça, ben voilà, Monsieur Série, c'est de la comédie surtout. Et les nouvelles saisons, donc les anciennes séries avec nouvelles saisons, Mythic Quest qui était arrivé il y a très peu, la saison 2 sur Apple TV+, qui, la saison 1 était géniale, les épisodes supplémentaires étaient aussi excellents, il y a eu une cohésion de groupe qui s'est fait au fur et à mesure de la saison 1, et la 2, ben, ça part sur les chapeaux de roue, et c'est juste génial. Staged, saison 2, où on a Michael Sheen et David Tennant qui sont en mode confiné, qui se parlent via Zoom interposé, et la 1 était vraiment très très drôle, la 2 a changé quelques petites choses, mais reste toujours très très savoureuse dans ces dialogues. Et ici, elle vient de se terminer, mais This Is Us, la saison 5, qui, après une saison 4 que j'avais trouvé faiblarde, personnellement, qui jouait un peu trop sur le pathos et qui s'était concentré sur certains personnages, en oubliant un peu la cohésion du groupe, qui est quand même ce qui fait la série, hein, les trois frères et sœurs. Voilà, la saison 5, c'était bien joué, c'était beau, c'était touchant, c'était ce qu'on aime dans This Is Us, et maintenant on sait que la prochaine saison c'est la dernière, et il va y avoir des choses à raconter pour cette dernière saison qui n'arrivera pas avant mi-2022. Voilà, à bientôt.
Alors, Ted Lasso, Girls 5 Eva, 3615 Monique, on ne peut pas être plus d'accord avec lui.
Oui, clairement. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, 3615 Monique, mais c'était drôle. Hein,
bah, c'est vrai qu'en série française, OVNI, 3615 Monique, ça a été vraiment ouais. De bonnes surprises. Enfin, surprise. Henry Watch Friends, Scrubs, The Office, classique, la base.
Si tous les ans, je pouvais faire le même rewatch.
Et la nouvelle saison, Mythic Quest saison 2, Stage saison 2, This Is Us saison 5, on est d'accord au moins sur deux séries. Et ouais. Mythic Quest, alors Aki n'est pas du tout d'accord.
Ouais, j'avoue que...
Dis que bah, c'est nul.
Mais c'est le problème de Mythic Quest, comme de Silicon Valley ou d'autres choses, c'est qu'en gros, ils assument, ou Big Bang Theory, ils assument leur beaufrie slash misogynie en sous couvert que parce qu'on a un personnage un peu féministe, donc ça passe. Mais en fait, ça n'enlève pas à quel point les personnages sont détestables.
Mmh. Elles sont vraiment détestables en plus.
Franchement, même Danny Pudi, que j'adore, il est détestable.
Ah ouais, ah ouais.
Les tops, le bilan de 42 minutes.
Salut, on est Morgane, Chipou et Guilic, on est 42 minutes, voici nos top 3. Doum doum. Pour notre top 3 nouvelle saison, on commence avec 10% qui revient un peu de nulle part. Ça ressemble à une fin de série, mais une très bonne fin de série, avec une bonne conclusion pour tous les personnages. Il paraît qu'un film va arriver bientôt, en espérant que ce ne soit pas de trop. Pour la deuxième position, on part en Norvège pour féliciter la seconde saison de Home for Christmas qui a encore touché juste, avec l'un des meilleurs couples TV que l'on a vu naître. La série fait un sans faute sur une vie sentimentale moderne. Enfin, notre top 1, c'est évidemment la saison finale de DuckTales. Elle est maîtrisée, belle, conclut absolument tout, tout en ajoutant de belles surprises niveau histoire. Une fin parfaite pour une série parfaite. Pour notre top 3 des nouvelles séries, on commence direct avec WandaVision. La série Marvel nous a impressionnés. Elle est inventive et on est content car ils ont tenté un concept audacieux. Et cette diffusion d'un épisode toutes les semaines a attisé notre hype. Bel essai transformé. Pour le top 2, on vous propose un des meilleurs revivals de ces dernières années, The Mighty Ducks. C'était de très bons films pour enfants et adolescents, et la série repart dans la même optique. Ils ont réussi à ne pas tomber dans la nostalgie, ni dans la bienveillance 2021 à outrance. Et on a adoré voir Lorraine Graham en tête d'affiche, et voir que Emilio Estevez est toujours vivant. Et enfin, en première position, comment ne pas mettre Julie and the Phantoms. On partait dessus pour se foutre d'elle et on s'est fait gifler par les musiques de qualité, la très bonne alchimie du groupe et Charlie bien sûr. On passe finalement un très bon moment avec ces fantômes un peu cons mais mignons. Hashtag Renew Julie and the Phantoms. Pour le top 3 rewatch découverte, cette année Morgan nous a fait découvrir Limetone, à voir gratuitement sur Facebook Watch. Un casting 5 étoiles dans une histoire où tous les habitants d'une ville ont disparu en une seule nuit. Jessica Biel, journaliste pour une radio, porte ses séries crédibles, sérieuses et surprenantes. Un must watch pour les fans de The Leftovers. Le top 2 est donné à Selfie, série avec l'excellent chat noir John Cho et la parfaite, sublime, magnifique et reparfaite Karen Gillian. Une série qui a été annulée bien trop tôt car elle était trop en avance sur son temps. L'égocentrisme et la toxicité des réseaux sociaux dépeints dans la série auraient eu beaucoup plus de résonance en 2020. Enfin, notre top 1 préféré et unanime tout top confondu, c'est pour Are You Afraid of the Dark. La saison 1 de 3 épisodes est une masterclass de cohésion de groupe dans une histoire dérangeante. La seconde saison anthologique sortie cette année présente un groupe un tout petit peu plus vieux et une histoire encore plus flippante. Il ne faut pas sous-estimer Nickelodeon qui sait faire des séries de qualité et intelligentes comme Avatar et la légende de Korra.
Assez étonnant parce qu'il y a Julie and the Phantoms, The Mighty Ducks et WandaVision. Alors là, Stéphane est très content.
Mais en fait, je suis comme eux parce que moi, je voudrais trop une saison 2 de Julie and the Phantoms. Donc, je dirais rien. Voilà.
C'est sur Disney Plus ? Netflix.
Non, c'est Netflix.
Non, Netflix. Ouais.
Non, c'est une série musicale. Ah oui, c'est les deux autres qui sont les ados. Là. Ouais, ah. C'est ça, avec les fantômes qui chantent. Voilà.
Oui.
En rewatch, Are You Afraid of the Dark, Selfie, Limetown. Alors, c'est un peu récent, mais Selfie, moi, je peux que conseiller Selfie. Je sais pas pourquoi, mais John Cho et Karen Gillian, moi, j'adhère. J'adore.
Ça marchait bien.
J'adore.
Elle était trop précurseur, à mon avis, Selfie.
Absolument. Oui. Absolument.
Et puis, elle était trop belle, surtout.
Elle aurait très bien marché sur Netflix maintenant.
C'est vrai.
Ouais.
Et en nouvelle saison, DuckTales saison 2 annulée, Home for Christmas saison 2, 10% saison 4, plus ou moins annulée, on ne sait plus.
Ouais.
Très clairement, c'est loin d'être la meilleure saison de 10%. Et ouais, en plus, je leur en veux tellement de continuer la série.
Attends, on ne sait pas parce que
non, mais ça c'est juste ce que dit Bessner, hein, parce qu'il n'y a pas de scénariste et les acteurs ils ont dit ouais, bon.
Oui, voilà, oui, c'est ça, il n'y a rien de. Et place au bilan de Seripods. Le jeu de la dame, Superman Lois, Kung Fu et OVNI. Alors Kung Fu, Stéphane est content.
Oui.
Non, mais c'est vrai que Seripods sont très portés quand même sur tout ce qui est série. un peu networks ou grand public, donc on ne peut pas non plus les blâmer, mais c'est vrai que...
Bah, à part acquis un peu, hein, carrément.
Bah oui, ma prétention est toujours là.
En rewatch, Psych, West Wing, Farscape, 7 jours pour agir. Bon, 7 jours pour agir,
non,
mais
ça
me fait
adoré.
Rire.
Ah, mais c'était tellement bien, 7 jours pour agir.
C'était tout.
Je ne sais pas si je vais choquer des gens, mais moi, je n'y arrive pas à Farscape.
Ouais, bah ouais, moi, le premier, j'aimais la volonté de raconter ce genre de choses.
Ouais.
Mais oui, c'est.
Ouais. J'en ai regardé plein, je crois. J'ai regardé 10 peut-être épisodes un jour, mais j'y arrive pas.
J'ai regardé toute une saison l'été dernier, et c'était la deuxième fois, je crois, que je faisais ça, et j'arrive jamais à aller au-delà.
Ah bah ouais, ça me rassure parce
fait,
que
pour moi, le gros souci, c'est les prosthétiques. Ouais. Enfin, genre, j'arrive pas à dépasser. Je l'ai trop mal fait. Ah ouais, c'est.
T'as bien regardé les premières saisons de Doctor Who 2005. C'est pas
non, rien, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Honnêtement, c'est très différent.
Doctor Who, c'est
parce que dans Farscape, ils se prennent au sérieux. Quand Doctor Who, tu dis c'est normal que ce soit comme ça.
Doctor Who, c'est l'esthétique Russell T. Davis parce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux quand tu le vois quand on passe à Steven Moffat. Donc là c'est plutôt assumé, alors que Farscape c'est ouais, ça fait tellement partie du décor, ça fait tellement partie de la mythologie que je sais pas, j'ai du mal à dépasser ce cap là.
Et enfin, nouvelle saison pour Mandalorian saison 2, Warrior saison 2, DuckTales saison 2. Voilà, Mandalorian, c'est vrai que ça a explosé encore avec cette saison 2.
C'était très bien,
je suis d'accord.
Mais la saison 2 de Warrior est vraiment très très bien aussi. Il faut pas cracher dessus, ça se bastonne, ça couche à tout va, et moi c'est tout ce qu'il me faut.
On n'est pas dégueulasse.
Voilà. Ah non, clairement.
merci donc à nos collègues de Series Junkie, Monsieur Series & Friends, 42 minutes et SeriePod, que vous pouvez retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcasts. Après ce bilan, on est en droit de se demander, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison quand même? Est-ce qu'elle est beaucoup moins bonne que...
Non,
de série. Je ne vais pas demander ça à toi. Mais est-ce que finalement, le Covid n'a pas vraiment bouleversé création
COVID... Non. Ça a bouleversé les séries qui en ont parlé, clairement. Ouais. Et dans les séries...
Anatomy, salut.
Ok, ouais, voilà, mais celles qui se sont le plus chiées en parlant du Covid, c'est plus ou moins les séries médicales. C'est une catastrophe. Il n'y en a pas une qui arrive à sortir du lot, même s'il y a des histoires intéressantes ici ou là, c'est une catastrophe. Ça les a plombées, mais alors d'une force, je ne parle même pas de New Amsterdam, ça me fait mal au cœur, mais bon, enfin, ils ont dû composer avec ce qu'ils avaient quand ils pouvaient, mais bon, enfin, bon, bref, voilà. Mais c'est les séries non médicales qui ont mieux traité du Covid. Et de Black Lives Matter aussi, parce que bon, c'est les Américains ce qu'on regarde.
Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Enfin, sur Black Lives Matter, si. Mais Grey's Anatomy, je trouve qu'au niveau du Covid, ça en est plutôt bien sorti. C'est le reste qu'on ne l'a pas géré.
Ben moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est Black Lives Matter qu'ils ont mieux géré que le Covid.
Ouais, Black Lives Matter, en fait, j'aurais aimé que ce soit vraiment un propos sur le long terme.
Ben en fait, t'as pas regardé Station 19 et en fait, ils en parlent beaucoup plus dans Station 19.
Oui, mais alors leur truc de faut regarder Station 19 pour
avoir. Ouais, ça non.
Non,
moi je trouve, enfin, je suis d'accord. Franchement, Black Lives Matter, je trouve que c'est plutôt bien. C'est toujours présent en fait. Le fait que ce soit Grey's Anatomy, c'est forcément présent pour moi.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est Superstore qui a quand même très bien traité le Covid, quoi.
Ouais.
Oui.
Je trouve que c'était pertinent, c'était drôle. Et on salue en fait, d'ailleurs la fin de Superstore qui est terminée.
Oui, mais c'était une des séries une des professions représentées où ils étaient aussi le plus impactés par le Covid. Et que nous, on va tous faire nos courses et voilà, donc on se retrouvait encore plus dans ce qu'on voyait. Quoi.
Et dans les déceptions, alors, et sur une série qu'on n'a pas du tout parlé d'ailleurs du Covid, c'est Zoé's Extraordinary Playlist qui est terminée. Bon débarras pour certains.
Non.
C'est Maxime. C'est Maxime qui a prié. On l'a entendu sa prière.
Non, mais je suis désolé. Mais autant la première saison, je trouvais ça vraiment très très fun. J'étais avec vous dans le délire. Je trouvais que le twist de la série fonctionnait plutôt bien et qu'on allait quelque part. Autant la saison 2, je n'ai jamais compris où ça allait. Ça partait dans tous les sens. Les numéros musicaux, ils étaient vraiment très mauvais. Il y en a certains à sauver, mais sinon c'était vraiment très mauvais. Enfin, j'étais quasiment gêné de l'amateurisme en fait avec lequel.
Non mais c'est vrai.
Mais va danser, Maxime. On va voir.
Non mais il a raison parce qu'en fait, dans la saison 1, il savait ce qu'il voulait raconter. Il voulait raconter via son propre histoire. Sauf que dans la saison 2, au début, il sait pas trop. Il a pas su quoi faire. Et ça s'est ressenti, sauf qu'il s'est repris à 3 épisodes de la fin, et voilà.
Oui, mais voilà, pour nous fournir en fait une fin qui relance la mythologie, mais dans une direction un peu étrange.
Incohérente,
ouais. Incohérente, ouais, et on nous a jamais vraiment expliqué en fait tout ça. Il n'y a jamais eu de recherche de pourquoi ça se passait comme ça dans sa tête. Et là, on remet ça à la fin de la saison 2 comme un petit twist, restez avec nous. Bah, du coup, non, on ne reste pas avec vous.
Cela dit, c'était un twist intéressant parce que ça aurait pu être intéressant de voir ce qu'ils allaient nous proposer en saison 3.
Mais c'est vrai que travailler sur le concept, c'était intéressant. Enfin, c'est ça, il aurait dû en faire plus parce que l'épisode où mes chansons sont mélangées, c'était sympa. Quoi.
Fallait le proposer avant parce que attendre deux saisons pour avoir un élément, juste un seul élément qui rebondit. Enfin, on a vraiment rien.
Non, il y avait le bug aussi en saison 1, je ne sais plus ce que c'était.
Oui, c'est elle qui chantait, pas les autres.
Ouais.
On ne l'utilise pas, on nous dit que c'est là, ça
touche le code,
et après on ne nous l'explique pas, il n'y a pas de fuite. Donc pour moi, ça me sortait du truc en fait.
Puis les errances amoureuses de Zoé.
Les triangles amoureux, enfin les triangles. Il faut
non, le, quoi, le carré amoureux, parce qu'ils ont essayé de nous en mettre un quatrième, mais bon.
Ah, avec mon ami dont j'ai oublié le nom. Celle de. Enfin,
l'Australien, là. Ah non, tu parles de Rose, toi.
Ah, oui, Rose.
Katie Findlay.
Ah, Findlay. Ah là là.
Bah oui.
À chaque fois qu'il arrive dans une saison, c'est annulé. Fait chier, quoi. Man Seeking Woman, Zoé.
Et à chaque fois, je me dis qu'elle ressemble vraiment à Madeleine Zima.
Mais oui, c'est vrai. sinon, autre déception peut-être pour vous ? Est-ce qu'il y a des choses, des annulations, débris ? Non, on s'en fout.
Oui.
Bah, en Supergirl qui nous quitte, on s'en fout.
Non, on s'en fout. Mais débris, en fait, non, mais débris, c'était intéressant, mais sauf que ça arrive trop tard. Quoi.
On ne saura peut-être jamais ce qui s'est. Enfin,
John Noble arrive bien trop tard, et si ça était arrivé au troisième épisode, ça nous aurait fait rester, ça aurait fait rester plein de monde.
Teenage Bounty Hunters s'annulait à qui ? Tu voulais en parler ? Allez, je te laisse une phrase, vas-y.
Mais je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai adoré inexplicablement cette série, effectivement. C'était très court. Pourtant, en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec les séries teen, enfin avec des héros adolescents. Et pourtant, celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était le fait que c'était des jumelles. J'adore le concept de jumeaux. Vous me vendez n'importe quoi avec des jumeaux, il est très, très probable que j'adhère.
Et les pornos avec des pornos avec des jumelles.
Ah bah, évidemment, évidemment. Et là, ouais, ça marchait bien. Je trouvais ça très, très drôle et très pop aussi. Mais très triste que ce soit annulé.
Alors, j'avais noté en déception Netflix, mais je ne sais pas pourquoi on avait noté Netflix. Comme tous les ans, peut-être.
T'as vu la qualité ?
Ah, mais c'est toi qui voulais mettre ça.
Ils n'ont pas produit grand-chose d'exceptionnel à part le jeu de la dame et
Sweet Tooth
et la dernière saison de The Crown. Mais au-delà de ça... il y a certaines séries qui commencent à vieillir, notamment je prends par exemple Elite ou Stranger Things. Enfin, il y a
ça, c'est les acteurs qui vieillissent malheureusement. Oui. Vu que la saison 4 va être tournée en 2 ans, on va les voir grandir. Quoi.
Donc, je pense qu'il manque de séries fortes qui font le buzz parce que en fait, en une semaine, on a déjà tout oublié, quoi. Hormis celles qui sont vraiment excellentes et elles sont très très peu.
Et pour vous, la plateforme qui s'est un peu révélée, enfin, qui a fait du bon boulot cette
Salto.
Saison Salto.
Prime.
Apple. J'en sais rien, je voulais juste dire un autre.
Non, c'est France TV Slash en plus.
Non, mais c'est vrai que les autres, elles ont quand même su se démarquer. Enfin, Apple, elle propose quand même des séries assez régulières. Et de manière plus...
Et vous vous rendez compte que là, en ce moment, sur Apple, en ce moment, là, tous les vendredis, il y a 5 séries différentes. Je trouve ça dingue.
Oui,
mais tant mieux en vrai. Parce que moi, je suis d'accord.
Toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, tu vas avoir 5 séries différentes sur Apple. Alors que
ils avaient quasiment rien à leur lancement. Donc,
mais
c'est normal, en fait, ça arrive.
Mais ils commencent à instaurer aussi des marques, un morning show,
Fondation. Allez, fin septembre.
Ouais, non, mais voilà. Apple, ils commencent vraiment à marquer le pas, je pense, dans la guerre des streamings, parce qu'ils arrivent à proposer des séries peut-être moins grand public. Comme
j'ai trop peur pour Fondation, je vous le dis. Donc,
est-ce que c'est une nouvelle HBO ? Peut-être.
Bon.
Ben non, parce que HBO est toujours là et il fait toujours du HBO.
non,
mais c'est vrai.
Et Disney+, alors pour leurs séries, Marvel,
catastrophe.
Ben oui. Bon, mais il n'y a que ça en même temps, donc qu'est-ce que tu veux regarder? Ah si, j'avais regardé la série avec... enfin, avec non, produite par Kristen Bell, c'est de la télé-réalité. Hein.
Bon, après ce bilan, on a le droit de se demander quelle série regarder cet été. Donc on s'est laissé un peu le temps de regarder ce qui a commencé, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont commencé. Evil, saison 2, qu'on attendait sur CBS, finalement c'est Paramount+, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas. En tout cas, ça a commencé. Stéphane, est-ce que tu as commencé? Est-ce que pour toi, c'est...
Oui.
Pour l'instant, c'est bien.
Alors, c'est bien, ça manque un peu d'un but, voilà.
Il n'y a que deux épisodes, tu veux déjà un but.
Mais, pour l'instant, ouais, c'est fatiguant. Si,
mais le but, ce n'est pas la suite logique de la première saison. Véritable question.
Non, parce que là, on nous a filé l'exorcisme de Lot, là, dont je ne veux pas dire le nom parce que ça serait un spoiler. Et bon, bref, c'est pas, ça sort un peu du chapeau, là, comme ça. Voilà. Et ça règle des histoires. Là, c'est l'épisode 2 qui règle l'histoire d'un couple comme ça en claquant dans le doigt, enfin je sais pas, mais c'est toujours aussi bien à regarder, c'est toujours aussi fun, c'est toujours du
Christian Bouchard.
Aussi Katia Herbers qui est juste exceptionnelle, quoi.
Mais moi je suis pas d'accord, je trouve qu'ils vont quelque part et on le voit même plus avec ces deux épisodes que dans la première saison, enfin tout le traitement autour de Christian qui a fait ce qu'elle a fait, voilà, pour pas spoiler, mais ouais. Même la relation de sa mère avec Leland, où ça part dans un délire un petit peu étrange. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment qu'ils vont quelque part et ils nous y amènent, mais tout doucement.
Ah oui, non, mais je n'en doute pas qu'ils vont nous mener quelque part, mais sauf que j'aurais aimé un peu plus un truc un peu plus costaud. Enfin, bon, voilà.
C'était notre coup de cœur de la saison dernière. C'est disponible sur Salto pour la saison 1 à regarder. Kevin Can Himself, ça a commencé sur IMC il y a 2 semaines.
Eh bien, figurez-vous que j'ai regardé aujourd'hui les épisodes, là. C'est incroyable. Pourquoi vous m'en aviez pas parlé plus tôt?
Oh, c'est ce qu'on... Bon, enfin, ok. Bon, je dirais rien.
Non, mais sérieusement.
Bon, ça raconte quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est la vie d'une mère de famille de sitcom, tout simplement?
Ben non.
Vraiment? Et que finalement, c'est... c'est... En gros, c'est ça, vu que c'est un peu conceptuel, cette série.
Ouais, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça.
C'est la version dépressive de Vendavision, en fait.
C'est vrai.
Ouais, ouais, bien vu, bien vu.
En gros, c'est...
Vas-y, ça va être trop drôle de t'écouter pitcher cette série, vas-y.
En gros, ça commence comme une sitcom familiale de CBS, avec un mec un peu, un peu bourru, un peu...
Lourd.
Un peu lourd, et sa femme qui fait tout pour qu'il soit content.
Magnifique.
Ça se passe évidemment dans le salon familial, hein, comme tout sitcom. Et ensuite, quand elle quitte la pièce, souvent,
son
mari n'est plus là, et on change totalement d'ambiance. C'est une série
dramatique
avec une lumière beaucoup plus sombre, beaucoup plus grise. Et c'est c'est l'angoisse de cette mère de famille, enfin de cette femme. Je ne sais plus si elle a des enfants.
Non, ils n'ont pas d'enfants. Non.
Et donc, qu'on a marre de son mari, quoi. Et ça oscille entre l'ambiance sitcom et l'ambiance série dramatique, quoi. C'est assez fou. Ouais. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais c'est fou.
Mais c'est avec Annie Murphy qui est juste géniale. Oui.
Honnêtement, je la trouvais un petit peu sous-exploitée dans Schitt's Creek. Notamment, même si elle avait remporté son Emmy, c'était un peu en mode, elle ne sert à pas grand-chose. Et en fait, elle joue son propre rôle. Et en fait, pas du tout. Là, elle est genre incroyable. Voilà.
Eh ben, dis donc. Et il n'y aura que 8 épisodes pour cette saison 1. Donc, je ne sais pas si c'est une mini-série.
C'est pas plus mal parce que c'est quand même assez intense. Et pour tenir le concept jusqu'au bout, franchement, moi, j'ai peur. Hein, mais bon, après,
et c'est vrai qu'on disait que c'est façon sitcom, mais avec les rires. C'est vraiment... les blagues, c'est vraiment l'écriture sitcom et l'écriture dramatique à côté.
C'est 2 séries en une. C'est ça qui est fou. Quoi, ouais.
Dernière saison d'Atypical. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui regarde.
Non.
J'ai hâte.
Mais oui, c'est tellement choupi.
Les petits manchots.
Oui. Donc, saison 4, mais dernière saison. Voilà.
Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné.
Bah oui, mais 4 saisons seulement.
Honnêtement, ils auraient pu en faire plus, j'en suis sûr. Oui.
Et donc, ça arrive le 9 juillet. Ted Lasso. Oui. Ted Lasso, saison 2, le 23 juillet. Bon anniversaire, Stéphane.
Merci.
La fin de Loki, c'est quand? C'est le 14 juillet.
Non, mais on s'en fout, en fait.
On s'en fout très bien. Leverage Redemption.
Ah ouais. Non mais.
IMDb TV.
Vas-y, fais-toi plaisir, Aki.
Non mais juste, en fait, je comprends pas. Honnêtement, j'aimais beaucoup Leverage. Je l'avais même subé à l'époque. Mais juste comment parmi toutes les séries, pourquoi est-ce qu'ils décident de rebooter Leverage en fait ? Expliquez-moi s'il vous plaît.
Mais alors, je vais te le dire. C'est parce qu'il y a des fans partout dans le monde de cette série, comme toi et moi, et en fait, elle est extrêmement populaire. C'est tout. Ils ne sont pas allés chercher
mais
plus
loin. Mais tu vois, limite, je comprendrais mieux qu'ils rebootent Hustler, donc la série UK de...
Non, mais on s'en fout
de ça. Qui s'est inspirée de ça.
Oui.
Non, on s'en fout pas. C'était très bien. Et juste, mais en fait, je me rends compte qu'il y a eu de l'audience. Hein. Ok, une audience quand même bof, quoi, parce que ça reste du TNT, c'est ça hein.
Oui, ouais.
Ouais, voilà, ça reste TNT, quoi. Mais... Enfin, juste, c'était genre déjà, c'était vieillot. Enfin, c'était ringard quand c'est sorti, mais aujourd'hui, je vois pas en quoi ça pourrait être genre bien en fait.
Mais non, mais c'est ça qui est trop cool. Et puis en plus, il y aura Noah Wyle dedans, donc ça peut être que oui. Trop bien.
Franchement, je suis trop curieuse de voir ça. C'est... Voilà.
Bon, et eh ben garde la parole pour une série musicale. Oh là là, ça va être trop bien. Schmigadoon sur Apple TV Plus le 16 juillet.
Mais évidemment que ça va être trop bien.
Qu'est-ce que c'est? Ce truc.
C'est genre un couple qui a des problèmes entre eux, des problèmes relationnels, on va dire, et qui se baladent en forêt ou en montagne, je sais plus, et ils arrivent dans un village médiéval qui se déroule comme une comédie musicale, évidemment.
Oh là là, ça va être tellement insupportable.
Non mais donc évidemment, je pense à Galavant quand je vois ça, parce qu'il va sûrement y avoir des anachronies trop fun, et enfin bref, je pense à... Mais le cast, vous vous rendez même pas compte pour des fans de musical. Oh là là, donc Christine Chenoweth, Aaron Tveit,
Alan Cumming,
Jane Krakowski, Alan Cumming, non mais il y a que des gens de musical en fait, donc déjà voilà, je suis au bout de ma vie.
Bah, il est insupportable qu'il gagne Michael Key en lead.
Alors,
elle a même pas cité Cécile Strong quoi. Ah, voilà.
Moi j'adore Cécile Strong, mais qui gagne, j'avoue.
Et c'est réalisé pour la curiosité par Barry Sonnenfeld tous les épisodes.
Oh, ah ben voilà, d'accord, ok, je comprends mieux, d'accord.
Eh oui.
Qu'est-ce que tu veux dire par je comprends mieux quoi ?
Mais en fait, ça correspond tout à fait à son univers. C'est fou.
Okay. Ça aurait été écrit par Brian Fuller, ça aurait été pareil. Tu m'aurais dit.
Bah non.
L'univers est le même.
Non, c'est pas vrai.
Bon, d'accord. Gossip Girl le 8 juillet, le revival sur HBO Max. Est-ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on regarde pas ?
On regarde, oui. Pas.
Très bien. Si.
Juste pour la voix de Kristen Bell.
American Horror Stories, le spin-off, la série anthologique. Sur le 15 juillet. On regarde, on regarde pas.
Autant regarder Gossip Girl.
Dr. Death avec Joshua Jackson sur Peacock le 15 juillet.
Ah oui, c'est vrai. Ça
on regarde,
aussi,
on regarde
ça.
Pas.
Non, s'il joue aussi bien que dans la saison 5 de Fringe, non merci.
Là, il joue un médecin, donc il tue ses patients, d'après une histoire vraie.
Évidemment.
True Crime.
Saison 3 de Miracle Workers, qui regarde encore personne. Non, personne. 21 juillet, Turner et Hooch sur Disney+.
Oh là là.
Personne va regarder.
Ben non, mais j'ai honte qu'ils aient proposé un truc pareil, quoi.
Surreal Estate sur Sci-Fi, ça a l'air très bien.
Oui.
C'est des promoteurs immobiliers, mais qui s'occupent des... Enfin, c'est les chasseurs de fantômes qui vident les fantômes des maisons à vendre. Et ça a l'air plutôt sympa. Enfin, pour le coup, la bande-annonce, ça a l'air très fun, du moins pour le premier épisode. Ensuite, il faut voir sur la durée.
Ah, mais c'est avec Tim Rosen. Ok.
Voilà, voilà.
D'immobilier, est-ce que je peux juste faire un aparté mais vraiment allez. Débile
qu'est-ce que t'as à vendre?
Est-ce que vous avez regardé la télé-réalité sur Netflix où tu suis une agence d'agents immobiliers mais française? Vous avez vu le truc passer ou pas? Ça s'appelle l'agence.
Non.
Ok, c'est pas grave, c'était sur Netflix. Ok, je me demandais juste, merci.
Eh ben.
Ça, incroyable.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez noté?
Moi, je voudrais juste parler vite fait du premier épisode de The Good Fight parce que c'était juste génial.
Mais oui.
Ouais.
Oui.
Les Kings, là, ils sont en train d'enchaîner Evil, The Bite et The Good Fight, la saison 5 de The Good Fight. Et vraiment, leur niveau d'écriture, c'est ouf. Là, dans le premier épisode, le fait d'utiliser le Privacy on pour raconter leur histoire, j'ai trouvé ça, mais juste d'une ingéniosité dingue pour raconter en plus une année pourrie. Donc, on va couper dedans pour vous épargner ce qui ne sert à rien. Donc, non, vraiment, il faut regarder The Good Fight.
Et The Bit, alors, ça vaut quoi? Parce que j'ai lu des mauvaises presse sur The Bite.
C'est pas dingue. C'est sympa. C'est du sous-branded. On voit qu'ils tentent de récupérer un peu l'esprit. Vraiment poussé à fond sur la sur le.
Mais ça fait clairement série fauchée tournée en confinement, hein, ce qui doit être d'ailleurs le cas. Hein, mais
on le voit pas.
Pas du tout, on s'amuse bien alors.
On le voit pas à la caméra que c'est que ça doit être de l'iPhone ou quelque chose. Ouais.
Et ben. Et Rick et Morty saison 5 qui a commencé le 20 juin avec là deux épisodes, c'est fou. Enfin, là, ils ont retrouvé vraiment le niveau des premières saisons. C'est assez fou. Je sais que Stéphane, tu ne peux pas supporter cette série.
Pourtant, j'ai bien aimé le premier, mais alors le deuxième m'a exaspéré au plus haut point. Mais,
Non, mais là, c'est fou. Là, ils jouent sur des choses. Enfin, c'est.
Bah, toujours des concepts de SF, mais. Ouais, mais c'est
jusqu'au bout. Et. Il n'y a vraiment aucune perte de rythme dans les épisodes. Il ne faut vraiment pas cligner des yeux, sinon tu perds beaucoup de choses.
Ah oui, clairement.
Et donc, c'est sur Adult Swim, disponible. On fait beaucoup de pubs via Molotov, mais je ne sais pas si on peut la voir ailleurs. Si, on peut la voir ailleurs, de toute façon, Adult Swim, sur toutes les boxes.
Pas sur Canal, non ?
Je ne sais pas, Stéphane.
C'est pas dans le Canal.
Voilà, Sex Life, ça a commencé sur Netflix.
Ça a commencé et fini sur Netflix.
Oui, ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut regarder, si oui, pour les hommes et les femmes nues ou juste pour Sarah ?
Les deux, en vrai. Je pense que tu peux dire les deux, même si Sarah Chahi est toujours... Honnêtement, elle ne vieillit pas, déjà. Et ensuite, elle est vraiment très, très belle. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi elle joue là-dedans, je vous avoue. Enfin, je ne comprends pas l'existence même de cette série. Pourquoi cette série existe, s'il vous plaît ?
Mais c'est Netflix, pourquoi tu te poses la question ?
Ils ont une branche un peu...
Porno, oui,
tout à fait. Oui, un peu érotique depuis le succès de leur truc, la 365, 365 et des choses comme ça.
Ah ouais. C'est dans le top 10 des séries en France. Hein.
Mais il y a du cul, qu'est-ce que vous attendez ? Oui,
parce que Netflix, ils ne fonctionnent que sur ça. Hein. Même tu regarderas, la plupart de leurs séries sont quand même très portées sur le cul.
Oui, mais c'est quand même très, très
plus. Non, mais là, je suis désolée, mais là, c'est vraiment genre érotique, en fait.
Oui, là, c'est...
Enfin, vraiment, je vais commencer tout à l'heure.
C'est pas porno, non, j'exagère quand c'est pas du tout porno, parce qu'il y a des même. Films porno
c'est de l'érotisme, vraiment, pur et dur.
Ah, c'est complètement de l'érotisme, là. Et honnêtement...
Mais est-ce qu'elle est doublée, Sarah Chahi ?
Mais je pense pas, j'en doute fort, je pense qu'il doit avoir... Non, je pense pas la
ou alors
à la
c'est
connaissance.
C'est du deep fake, mais très bien fait.
Connaissance encore personnellement, non pas du tout. Non, mais je pense pas.
Et Republic of Sarah, est-ce que tu as commencé, Stéphane ?
Ouais. Pourquoi tu me vises ? Oui.
Bah non, parce que dans le trailer, ils ont détruit le.
Ouais. Non,
le
mais
box
ça me fait mal,
de Gilmore Girls, donc.
Ouais, qu'on voit dans toutes les séries qui se passent dans des petites villes hors les. Voilà. Mais ouais, alors je suis surpris. J'ai bien aimé le premier. Le deuxième, en fait, ils font une grosse ellipse. Donc, en fait, la partie intéressante, ils ne la traitent pas. Et donc, on se retrouve avec un truc pas très intéressant sur le deuxième épisode. Donc, j'ai un peu peur pour le troisième. Mais après, tout le casting, ils sont jolis. Et voilà, donc,
ils sont jolis, ils sont beaux.
Ben, voilà.
Est-ce que c'est fantastique ? J'ai pas trop compris, je t'avoue.
Non.
Ah non, ok.
Mais moi, Stéphane, j'ai un peu les mêmes peurs que toi parce que j'avais bien aimé le premier épisode. J'ai regardé le deuxième, je me suis dit que je m'étais planté et que j'avais pris un épisode.
Ben, j'ai eu peur moi aussi, je me suis dit c'est pas possible.
Plus loin et j'ai peur en fait que ça devienne mollasson et juste pour remplir l'été, tu vois, comme série.
Mais après, c'était pas censé être diffusé dans l'été, donc voilà, mais. Ouais. Mais j'ai peur quand même.
Mais moi,
peur.
Ce qui m'a dérangé, c'est le casting. Enfin, j'arrive pas à les reconnaître les uns des autres.
Ouais, ça va.
Non, mais comme tu dis, ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, mais j'ai l'impression que la limite d'âge dans cette.
Ah oui, c'est 30 ans.
Et 30 ans, ouais, c'est ça.
Oui, oui, clairement, oui.
Je trouve pas ça très réaliste, en fait, comme postulat, vu comment ils l'ont traité. Donc, je sais pas.
Oui, bon, après, ça reste de la CW de basse qualité. Hein, oui. Donc, voilà, on ne va pas nous demander plus que ce que ça prétend être.
Eh bien, voilà, les petits amis, c'est fini.
Déjà ?
Mais oui.
Et on a vraiment parlé de tout, là ?
Mais oui. Ça qui est fort.
Ok.
Toi.
Et non, on n'a même pas parlé de Nicole Kidman qui revient dans une nouvelle série cet été. Quoi.
Qui s'en fout ?
C'est vrai.
Non. Nicole Kidman. Arrêtez. Oh là là.
Si c'est pas elle, c'est... C'est Reese Witherspoon, et si c'est pas elle, c'est Kate Winslet. Alors bon,
allez, bande de bâtards.
Mais non, mais Tom, il a raison, ça fait plus le même effet maintenant. Elles y viennent toutes. Il y a Julianne Moore en ce moment dans Lies Story, qui est une série moyenne. Enfin, bonnes sans plus. Enfin, elles reviennent toutes pour des projets comme ça. Donc maintenant, il n'y a plus de, il y a plus d'effet waouh.
Bah, mais c'est le pire, c'est quoi. Non, mais on donne des rôles de femmes de 50 ans que à la télévision, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ça,
bah écoute, si c'est peut-être ça. Et quel rôle, j'ai envie de dire. Généralement, ce sont quand même des rôles de ouf.
Mais je veux dire, ça n'engage pas la qualité des séries. Elles peuvent être très
bonnes. Lies Story, c'est quand même tout pourri. Hein.
Non, mais ok, d'accord. Je suis pas d'accord sur ce, sur le fait que ce soit tout pourri, mais en général, les séries sont plutôt bonnes dans lesquelles elles vont, ou voire très très bonnes. Et mais c'est juste plus un débat en fait que des actrices qui vont au cinéma sont aussi à la télévision maintenant à plein temps. Alors,
moi, si ça me permet de voir Nicole Kidman pas tout le temps, je me plains pas.
Oui, non, mais ça, mais je suis complètement d'accord. C'est juste que maintenant, le truc de et avec Nicole Kidman en gros pour dire venez regarder la série, bah c'est plus un argument pour moi.
Ouais, okay, enfin, je comprends.
C'est plus l'événement. C'est j'aime bien Nicole Kidman, je vais y aller, mais voilà, c'est tout.
Voilà. Ok, Stéphane.
Ok. Bon, on regardera alors Selena Gomez dans le truc là de Hulu.
Avec Steve Martin et de Scorsese.
C'est ça.
Aïe, aïe, aïe.
C'est ça l'événement, c'est les chanteurs dans les séries.
Donc voilà, vous savez quoi rattraper et quoi regarder cet été. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Est-ce qu'on se retrouve à la rentrée ?
Oui, j'espère.
Est-ce qu'on se retrouve cet été ? Quel programme pour nous cet été ? Bah, en fait, j'ai des portraits de sériephiles à vous proposer. Et est-ce que la série Alcosa va arriver ? Ça, je ne sais pas. Il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Stéphane, Maxime, Aki, merci d'avoir été là.
Merci à toi, Tom. Thomas.
Donc c'est Alcosa partout sur tous les réseaux, prenez soin de vous et de vos séries et on se retrouve très bientôt, passez un bon été et n'hésitez pas à nous laisser des petits messages partout surtout,
surtout pour dire qu'Aki elle est prétentieuse.
Oui.
Ça me fait beaucoup rire.
Aimez Aki.
Oh là là, non, pas besoin.
Comme elle chie sur les gens, tu vois, elle est prétentieuse.
J'ai pas besoin de vous. Allez, merci, à bientôt.
Belle série.
Bye.